Hello? Saturne, ok. Alors, en me préparant pour cette causerie, je me suis vraiment rendu compte que cette question de pardon, c'est vraiment le cœur de la vie. Et j'espère pouvoir vous transmettre, en fait, une certaine vision, si vous voulez, que je crois avoir retirée des écrits que j'ai étudiés pour préparer cette petite causerie. En tout cas, nous aurons, comme je l'ai dit, le temps d'approfondir une partie ou d'autre. D'abord, je commence, comme toujours chez moi, avec un peu de logique. Qu'est-ce qu'on pardonne? On pardonne une faute. Donc, s'il n'a jamais de faute, il n'a jamais de pardon. Le pardon est une transaction qui se fait quand une personne a offensé une autre et la personne qui est l'objet de l'offense accepte de ne plus chercher un retour ou de juger l'autre. On commence donc avec cette situation que je suis l'objet d'une faute, enfin d'une injustice. Ça peut être tout petit, ça peut être une personne qui a marché sous mes pieds par accident ou n'importe quoi, jusqu'à des choses très très graves, n'est-ce pas, des agressions physiques ou autres. Étant donné que le discours humain est linéaire, je vous prie peut-être je ne peux pas tout présenter en même temps, donc il y a des choses qui peuvent sembler extrêmes tant que je n'ai pas complété le contexte. Enfin, je vous préviens de ça, mais sinon, tant mieux. Alors, si je suis l'objet d'une injustice, il y a 4 réponses possibles, dont 2 bonnes et 2 mauvaises. Et ces 4 réponses possibles, c'est le pardon, la victimisation, la justice et la vengeance. Et évidemment, les 2 bonnes, c'est le pardon et ou la justice. Et les mauvaises, c'est la victimisation ou la vengeance, la recherche de la vengeance. Et donc, tout l'art de pardonner, si vous voulez, ou tout l'art de répondre à l'injustice dans notre vie, c'est de savoir comment pardonner sans tomber victime. Ça, c'est très important. Et comment chercher la justice sans chercher la vengeance. Et c'est ça qui fait que ces 2 actes sont à ce point-là difficiles. Parce que il est très facile, par exemple, pour une personne de se laisser victimiser au nom du pardon. Donc, le pardon est un acte, c'est une proaction. Ce n'est pas simplement un laisser-aller, ce n'est pas un abandon devant une injustice. Okay? Ça, c'est la réponse victime, et ce n'est pas le pardon, et ce n'est pas conseillé par les prophètes ou par les Écritures saintes. Mais parfois, et c'est extrêmement difficile de faire la différence, et d'autres ne peuvent peut-être pas faire la différence, c'est seulement vous qui pouvez faire la différence entre pardon et victimisation. Et la même chose, combien de fois avons-nous cherché la vengeance au nom de la justice, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on dit, c'est quand même, on veut simplement la justice, on veut simplement régler les choses comme il faut, mais en fait, dans notre cœur, ce que nous voulons vraiment, c'est se venger de faire mal à l'autre comme il nous a fait mal. Maintenant, pourquoi pardonner? Alors, il y a une première raison pour pardonner qui est la plus surprenante dans une certaine mesure et aussi la plus forte. Et c'est parce que les Écrits saints nous disent que si on refuse le pardon, que Dieu nous refusera son pardon. Alors ça, c'est fort, ok? Alors, je vais vous lire quelques extraits. Malheureusement, je m'excuse d'avance, je n'ai pas eu le temps de trouver tout ça en français, donc je fais une sorte de traduction au pif, mais c'est des coups de passage. D'abord, Jésus dit, « Ne jugez point que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés, vous. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. » Et avec la même mesure que vous appliquez aux autres, Dieu appliquera cette mesure à vous. Donc, dans la mesure que vous jugez les autres, okay, Dieu va appliquer le même standard, la même règle, le même étalon que vous appliquez aux autres, va vous être appliqué par Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Il dit aussi, car si les hommes ne pardonnent pas les fautes, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas. C'est aussi cool que ça. C'est-à-dire, si vous ne pardonnez pas la faute des hommes, alors non plus votre Père au ciel vous pardonnera vos propres fautes. Okay. Alors, c'est pas moi qui a dit ça, ok? Soyez vigilants sur vous-même. Si votre frère commet une faute, confrontez-lui de ce fait. S'il s'en répand, alors pardonnez-le. Et si il répète cette faute encore 7 fois dans la même journée, alors chaque fois il faut le pardonner de nouveau. Alors, ça c'est Jésus qui dit ça. Et encore une chose, un dire de Jésus. Et quand vous êtes dans l'état de prière, pardonnez si vous avez quoi que ce soit dans le cœur contre d'aucuns. Et faites ça pour que votre Père au ciel puisse vous pardonner vos propres fautes. Donc il dit, quand vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose sous le cœur contre quelqu'un d'autre, pardonnez cette personne pour que Dieu puisse vous pardonner. Autrement dit, bon, il dit, je n'ai pas à interpréter, mais si vous ne pardonnez pas, alors votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ok? Donc, on peut dire d'abord, c'est la chose la plus fondamentale, c'est l'intérêt propre, n'est-ce pas? Jésus fait appel à notre intérêt propre, c'est dans notre propre intérêt de pardonner, parce que il n'est pas permis, si j'ai bien compris ces quelques passages, que nous gardons de rancune dans notre cœur envers quelqu'un, tout en demandant à Dieu de nous pardonner nos fautes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si je suis sincère en demandant à Dieu de pardonner mes fautes, il faut que je sois prêt aussi à pardonner les fautes des autres. Maintenant, cette histoire de 7 fois, il y a une petite histoire de cela. Moïse a institué comme loi, parce que vous savez que le principe de base de la religion judaïque, c'était la loi. C'était la loi. Et c'était très tranché, soit vous obéissez aux lois, soit vous êtes puni, n'est-ce pas? Il y en a très peu d'entre deux. Alors, mais Moïse a quand même dit si quelqu'un vous demande pardon, il faut le pardonner. Et il avait dit, par exemple, ils ont institué la chose tous les 7 ans, c'est le sabbat, c'est la 7e année, toutes les dettes étaient remises. C'est-à-dire automatiquement, au bout de 7 ans, toutes les dettes étaient automatiquement épongées de tout le monde. Moïse a institué donc une sorte de pardon formel, si vous voulez, et tout ça. Et il a dit, il faut pardonner jusqu'à 7 fois. Parce qu'on avait demandé à Moïse, mais combien de fois est-ce qu'on pardonne, supposons qu'il répète la faute? Il a dit, il faut pardonner 7 fois. Le numéro 7 encore une fois. Jésus a dit, Moïse vous a dit de pardonner 7 fois, je vous dis de pardonner 7 fois 7. 49 fois. Et Abdu'l-Bahá, le fils de Baha'u'llah, fondateur de la foi Baha'i, on lui a demandé combien de fois pardonner, il dit infiniment. Aucune limite. Alors on voit quand même une sorte de progression, que Moïse n'a pas imposé le pardon infini à ses adeptes, mais la progression au travers les prophètes nous converge vers cette notion. Maintenant, juste pour lire quelques écrits Baha'i au sujet du pardon, pour montrer à quel point c'est fort, n'est-ce pas? Alors, ce sont des paroles d'Abdu'l-Bahá, et ça peut être même, enfin, je me souviens, la première fois, ma femme et moi avons passé quelques années en Russie, je me souviens de la première fois, imagine-toi en Russie, au bout du communisme et tout ça, quand j'ai lu ces paroles la première fois dans un coin de feu en Russie, les gens, ils étaient, bon, ça c'est vraiment dur. Hein. Il dit, dans chaque commandement, dans chaque dispensation, je fais plus de traduction, ok? Maintenant, je lis en français. Dans chaque dispensation, le commandement d'amour et de fraternité a été donné, mais il s'est confiné à la communauté de ceux qui étaient en accord réciproque et ne s'attendait pas à l'adversaire dissident. En cet âge merveilleux, toutefois, louange à Dieu, les commandements de Dieu ne sont plus réservés à un groupe de personnes déterminées, c'est-à-dire pas juste entre les croyants. Bien au contraire, tous les amis ont été exhortés à manifester fraternité et amour, considération, générosité et bonté à chacune des communautés de la terre. Et à présent, les amoureux de Dieu doivent obéir à ces commandements. Cela signifie que vous devez faire preuve de tendresse et d'amour envers chaque être humain, même envers vos ennemis, et les accueillir tous dans un élan de fraternité, d'encouragement et de bonté sans mélange. Si l'un d'eux vous persécute, on vous manifeste de la cruauté, ne perdez pas confiance en lui. Lorsque vous faites l'objet de malveillance, répondez d'un cours aimable. Si une pluie de flèches et de lances s'abat sur vous, exposez pour cible vos poitrines. Et face aux injures, sarcasmes et paroles blessantes, soyez remplis d'amour. C'est très très fort. Maintenant, comme nous allons voir, je me hâte tout de suite à le dire, comme nous allons voir, Abdu'l-Bahá le dit clairement plus tard, que cette loi de pardon et d'amour inconditionnel s'applique à l'individu. Ici, il parle des relations entre les individus. Ainsi, les bien-aimés de Dieu doivent se comporter avec la même affection et la même fraternité envers l'inconnu comme envers l'ami, manifestant à tous une extrême bienveillance, évitant de considérer leur capacité et ne demandant jamais s'ils méritent d'être aimés. Ok? Ça c'est l'inconditionnalité de l'amour. Je voudrais juste lire ça encore une fois. Ils disent donc, encore une fois, ils répètent comme il a dit avant, la fraternité envers tout le monde, l'inconnu et aussi bien que l'ami. Il dit qu'il faut manifester à tous une extrême bienveillance, évitant de considérer leur capacité, c'est-à-dire ceux qui sont plus, plus intéressant, mettons, et ne demandons jamais s'il mérite d'être aimé. Donc l'amour dont il parle n'est pas conditionné sous la façon de d'agir de l'autre personne. Okay? Maintenant, c'est conditionné sur notre capacité de reconnaître l'humanité de cette personne. Ça, c'est le défi de reconnaître l'humanité de cette personne, nonobstant sa façon d'agir qui peut être blessante ou même injuste. Et finalement, encore une citation dans ce sens. Ô armée de Dieu, quand il parle d'armée de Dieu, c'est les adeptes de la foi bahaïe, prenez garde de ne faire de tort à aucune âme et de n'affliger aucun cœur, de ne blesser personne par vos paroles, qu'il s'agisse d'une connaissance ou d'un étranger, d'un ami ou d'un ennemi. Priez pour tous les hommes, pour que soit accordée à tous la bénédiction et le pardon de Dieu. Donc si vous souhaitez pour vous-même le pardon de Dieu, il faut prier que Dieu pardonne les autres aussi, même vos ennemis. Prenez garde, que l'un d'entre vous ne cherche vengeance. Même contre une créature assoiffée de votre sang. Prenez garde de ne pas offenser les sentiments de vos semblables, même s'ils sèment le mal et vous veulent du mal. Ne considérez pas les créatures, tournez-vous plutôt vers le Créateur. Ne soyez pas les éternels récalcitrants, ne voyez que le Seigneur des armées, ne regardez pas la poussière de ce bas monde, élevez votre regard vers le soleil éclairant qui a fait briller chaque coin de terre obscure. Alors, encore une fois, comme je vais maintenant citer, toutes ces choses, c'est très fort. C'est très fort, ça demande beaucoup de nous. Mais c'est très clair, comme ça va se voir tout de suite, que ça s'applique à l'individu, pas au criminel vis-à-vis de la société. OK? Alors, d'abord, lors d'une causerie à Paris, Abdu'l-Bahá dit simplement la chose suivante. Dit, attention maintenant aux paroles, parce que c'est très précis. Si quelqu'un commet un crime envers vous, vous n'avez pas le droit de le punir, mais la loi se doit de le punir afin d'éviter la reddition du même crime par d'autres. Car la souffrance de l'individu est peu d'importance à côté du bien public en général. Donc, regardez, il ne dit pas que si quelqu'un vous offense, vous ne devez pas le punir. Il dit, si une personne commet un crime, s'il commet un crime, ça veut dire qu'il mérite un châtiment. Mais ce n'est pas à l'individu d'appliquer ce châtiment. C'est à la société. Alors, je vais lire vite d'autres passages qui éclaircissent davantage cette pensée. Lorsque le Christ disait, si quelqu'un te frappe le côté droit, offre le côté gauche, c'était pour faire l'éducation des hommes. Il ne voulait pas dire que si un loup tombait au milieu d'un troupeau de moutons et voulait les détruire, il faudrait l'encourager. L'attente de l'existence repose sur le pilier de la justice et non sur le pardon. Non, encore une fois, donc l'attente de l'existence repose sur le pilier de la justice et non sur le pardon. La préservation de l'espèce humaine dépend de la justice et non du pardon. Mais ici, il parle de la collectivité, c'est très clair. Il dit par exemple, Il dit, de même, si aujourd'hui, dans tous les pays du monde, la loi du pardon était répandue, c'est-à-dire, il parle du pardon de la collectivité envers les criminels. Ok, toutes ces paroles fortes que j'ai lues à tout à l'heure, ça s'applique entre individus. Ok, si la loi du pardon était répandue, en un instant, le monde serait détruit et les fondements de la vie humaine s'écrouleraient. C'est ainsi que si le fameux Attila n'avait pas été combattu par les États de l'Europe, il n'aurait pas laissé un seul homme vivant. Et dans un autre passage que je ne vais pas lire, mais Abdu'l-Bahá explique, il dit, il y a des personnes qui prennent plaisir dans le mal. Et il dit, il n'y a rien que la force qui va arrêter ces personnes-là. C'est-à-dire qu'aucun pardon ne va arrêter ces gens. Bref, la constitution de la communauté dépend de la justice et non du pardon. Non, le Christ parlait de la conduite à tenir entre deux individus. Si l'un en opprime un autre, l'opprimé doit pardonner. Mais les communautés ont à protéger les droits de l'individu. Ainsi, si quelqu'un m'opprime, dit Abdu'l-Bahá, me cause de mal et de tourments, ou me fait une blessure, je ne lui résisterai nullement et même je lui pardonnerai. Mais si quelqu'un veut opprimer Syed Menchadi, c'est-à-dire un homme présent, certes, je l'empêcherai. Donc, je peux faire pour moi-même le choix de pardonner, mais je ne peux pas faire ce choix pour vous. Ok, ça c'est très important. Ok, je vous dis que c'est subtil. Ok, donc ça serait la lâcheté s'il avait un homme qui venait dans cette chambre s'attaquer à Rosine ou quelqu'un. Et si je ne faisais rien, vous ne direz pas mais quel saint homme, il pardonne ce type. Vous direz mais quel lâche, il défend pas son ami. Non mais c'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention, encore, ces paroles très très fortes sur le pardon, c'est vraiment inconditionnel, n'est-ce pas? C'est vraiment absolu. Pardonner aux autres, c'est entre l'individu. Mais la communauté doit punir et pour empêcher que la récidive et tout ça, et aussi l'individu doit protéger des tierces personnes. Il peut choisir lui-même de ne pas résister à une attaque par la force, mais il doit employer la force pour protéger des innocents qui sont attaqués. Okay? Il ne peut pas faire le choix pour d'autres. Alors, donc maintenant on vient à un point encore plus subtil. Encore plus subtil. Alors, encore une fois, j'essaie de résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'abord, il faut pardonner. Entre individus, la loi, c'est la loi du pardon. Et une des raisons principales, c'est que, en quelque sorte, le refus du pardon, c'est de s'ériger en Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est dit, j'ai le droit de juger cette personne. J'ai le droit de dire, ben, puisqu'il a fait cette faute, il est une mauvaise personne. Ça, c'est le refus du pardon, c'est en quelque sorte de recréer la personne à l'image de la faute qu'il a faite. Ok? Autrement dit, imaginez chaque personne dans toute sa richesse, dans toute son humanité. Si vous refusez le pardon à quelqu'un à cause d'une faute qu'il vous a fait, en quelque sorte, vous êtes en train de dire, cet homme est à l'image de cette faute. Cette faute, c'est lui. Je ne pardonne pas, parce que quand vous pardonnez, ce n'est pas la faute que vous pardonnez, c'est l'être que vous pardonnez. C'est l'être humain que vous pardonnez, ce n'est pas la faute. Ok? Parce que la faute peut être impardonnable, mais vous pardonnez l'être qui a été conduit par des circonstances que vous ne connaissez pas parfaitement à poser ce geste. Donc vous pardonnez la personne et pas la faute. Ok? Et donc, ça c'est la loi entre individus, mais la communauté doit se protéger. On n'a pas, comme Abdu'l-Bahá dit, à laisser les loups errer parmi les moutons. La société a l'obligation d'appliquer la justice. Mais il dit, je n'ai pas le temps de lire ça, mais il dit dans un passage que même la société ne cherche pas vengeance. Et il dit, même en punissant, même en appliquant la loi à des criminels, la société cherche à se protéger et à aider le criminel à retrouver son équilibre spirituel. Okay? C'est-à-dire, même pour les meurtres et tout ça, les assassins, même en appliquant la loi, la société ne doit pas chercher la vengeance. La vengeance, comme c'est déjà dit dans la Bible, est à Dieu seul. Est à Dieu seul. Donc, dans aucun cas, ni l'individu, ni la société ne cherche la vengeance. Ok? Mais la justice, nous le cherchons. Et la justice veut dire, dans certains cas, punition. Et maintenant, on revient au niveau individuel. Et Baha'u'llah, Abdu'l-Bahá maintenant nous dit dans quel cas il faudrait que l'individu réagisse plutôt dans le mode justice que le mode pardon. Alors il dit, efforcez-vous donc de tout votre cœur de traiter avec compassion tous les êtres humains, à l'exception de ceux qui nourrissent des ambitions égoïstes, personnelles, ou qui sont atteints de quelque maladie de l'âme. Nous ne pouvons manifester de la bonté à l'égard du tyran, du traître ou du voleur, car loin de les éveiller à leurs fautes, nous les inciterons à demeurer dans leur dessein pervers. Vous aurez beau manifester de la bonté envers un menteur, il n'en continuerait pas moins à mentir de plus belle, quand il croira vous avoir abusé alors que vous ne le comprenez que trop bien et que votre silence n'est motivé que par votre extrême compassion. Donc, confronté, comme il dit, il donne ces trois cas en particulier, le tyran, le menteur et le traître. Il dit aussi le voleur, qu'il faut confronter ces gens-là. Et je pense que ça c'est l'expérience dans notre vie, n'est-ce pas? Ça c'est l'expérience dans notre vie. Quand nous sommes obligés, vraiment, ça peut arriver au travail, n'est-ce pas? Ça peut arriver n'importe où. Vous êtes vraiment devant un tyran, une personne qui, évidemment, cherche à vous manipuler et tout ça. Alors, Abdu'l-Bahá nous dit, cette sorte de personne qui prend plaisir à dominer les autres, vous devez confronter ça. Si vous répondez par le pardon, que ça va simplement encourager la personne. Autrement, ce qu'Abdu'l-Bahá est en train de nous dire dans ce passage, je crois, c'est comment éviter la victimisation. Rappelons que la vengeance, il ne faut jamais l'avoir. La rancune dans le cœur, il ne faut jamais l'avoir. Ok, il a déjà dit ça. Si vous gardez la rancune dans votre cœur, Dieu ne vous pardonnera pas. Donc pas de vengeance, pas de rancune dans le cœur. Mais, si une personne agit de certaine façon, s'il est un voleur, si c'est un menteur, si c'est un tyran, vous avez l'obligation morale de confronter cet individu de l'injustice qu'il fait. Ce qui prend du courage, n'est-ce pas? Cela où le pardon se distingue nettement de la victimisation, n'est-ce pas? Parce qu'il faut avoir, et surtout les victimes, n'est-ce pas? Enfin, on a tous été victimes dans des degrés plus ou moins grands. Quand vous êtes victime, ce que vous voulez dire, c'est fuir. C'est ça que l'envie qu'on a, c'est de fuir. On veut fuir simplement, on ne veut plus en parler, etc. Mais Abdu'l-Bahá est en train de nous dire non. Il faut avoir le courage moral d'affronter cette injustice et de dénoncer cette injustice. Donc ça peut ne pas être un crime, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si c'est un crime, vous le dénoncez à la société, la personne doit être punie par la société, etc. Mais ici, il ne parle pas nécessairement d'un crime. Une personne peut vous mentir. Vous ne pouvez pas le traduire en justice parce qu'il vous a menti, n'est-ce pas? Donc il parle encore des relations humaines. Mais il dit, dans ces catégories-là, des gens qui sont manipulateurs, il dit qu'ils ont des desseins cachés, ok? Ou des maladies d'âme. Ce sont des personnes comme des psychopathes, des sociopathes qui sont manipulateurs et qui n'ont pas de remords, n'est-ce pas? Enfin, on peut en parler beaucoup de ça, mais il y a, malheureusement, il existe des gens, il existe des conditions humaines, des personnes qui sont des psychopathes, qui sont des manipulateurs, et qui, il faut confronter cette injustice et le dénoncer. Maintenant, la conséquence de cela peut être que la personne va essayer de se venger sur vous, n'est-ce pas? Si vous le confrontez de la chose, vous pouvez dire, mais écoutez, si vous allez dire ça aux autres, mais je vais faire telle ou telle chose, n'est-ce pas, en fait. Je vais mentir sur vous, je vais dire à tout le monde que c'est vous qui avez fait, c'est pas moi, etc., etc., en fait. Les oppresseurs, c'est souvent leur façon de traiter avec les victimes, n'est-ce pas, c'est de les forcer dans le silence, n'est-ce pas. Donc, c'est le dernier élément. Il faut savoir pardonner sans tomber dans la victimisation. On évite la victimisation en confrontant certaines formes d'injustice qui sont des manipulations, telles le mensonge, la tyrannie, le vol. Et s'il s'agit d'un crime, on dénonce la personne à la société. Mais on n'a pas le droit nous-mêmes d'agir comme juge vis-à-vis du criminel. Alors donc, je termine en retournant à l'interrogation du départ, qui est pourtant réellement pardonné. Et ce que je retire de ces lectures, et ce que je vous offre, c'est ma réflexion personnelle, mais c'est la chose suivante. Oui, nous pouvons réellement pardonner. Parce que Dieu nous a dotés de la capacité de pardonner. Et en nous pardonnant, et tous les prophètes, tous les écrits saints disent la même chose, qu'aussitôt qu'on demande à Dieu pardon, sincèrement, il nous pardonne immédiatement. Dieu ne retient jamais son pardon. Ça se dit dans tous les écrits, n'est-ce pas? Dans les écrits Bahaï aussi. Donc, Dieu ne retient jamais son pardon. Si nous voulons nous rapprocher de Dieu, on ne retient jamais notre pardon à l'égard de l'être humain. Ok? Mais il y a certaines fautes que si quelqu'un les commet, il faut les dénoncer, etc. Il faut agir avec justice. Mais, et voilà la grande conclusion pour moi, oui, on peut pardonner. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire la justice. Seul, nous ne pouvons pas faire la justice. Autrement dit, nous pouvons ne pas juger les autres. Ça, nous pouvons faire. Ça, c'est le pardon. C'est le refus de juger moralement l'autre, de le recréer à l'image de sa faute. Mais nous ne pouvons pas juger adéquatement une autre personne, du point de vue moral. Et donc, on peut dire, mais le pardon, c'est difficile, mais ce que les écrits saints nous disent, c'est que la justice est encore plus difficile que le pardon. Et c'est tellement difficile que seulement dans la consultation et dans la collectivité et par certains processus que vous pouvez chercher même une justice relative, n'est-ce pas? Que l'individu humain n'aurait jamais la capacité à lui seul de faire justice envers une autre personne. C'est-à-dire, je veux partir d'agir justement, mais je veux dire de juger adéquatement les conditions morales ou spirituelles de notre personne. Ça, c'est la justice divine, et c'est seul Dieu qui peut appliquer cette justice. Alors voilà, j'espère que c'est cohérent.
Merci. Oui.